VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 24 mars 2023. Il est 17h30 temps universel pour commencer le sommaire. Remaniement ministériel en RDC, retour aux affaires de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, deux poids lourds du paysage politique congolais. La peine de 25 ans de prison de l'opposant Paul Rusesabagina, commuée par le gouvernement rwandais, il pourrait être libéré et s'envoler pour le Qatar ce week-end. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, entame dimanche une tournée africaine qui l'amènera au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. À suivre aussi les nouvelles économiques, le Togo et le Niger créent une commission mixte de coopération sur la sécurité et le transport et les sports avec les matchs aujourd'hui de la troisième journée des éliminatoires pour la CAN 2003 de football. Pour commencer, le journal. En RDC, un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, à 9 mois de la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste en fonction et deux poids lourds du paysage politique congolais, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, reviennent aux affaires. Alexandrine Ollegnon.
C'est un remaniement qui redessine l'équipe ministérielle à 9 mois de la prochaine présidentielle en RDC. Jean-Michel Sama Lukonde maintient son poste de Premier ministre. À la Défense, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba au rang de vice-premier ministre. Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la CPI pour des crimes commis en Centrafrique avant d'être acquitté en appel en 2018 après 10 ans de prison. Autre retour notable, celui de l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, nommé ministre de l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Il avait été condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022. Ce remaniement a été présenté comme imminent depuis 3 mois après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a annoncé depuis des mois qu'il serait candidat à sa réélection le 20 décembre prochain.
L'opposant rwandais Paul Rusesabagina, qui a inspiré le film Hôtel Rwanda, va sortir de prison après que le gouvernement a annoncé ce vendredi avoir commué sa peine de 25 ans pour terrorisme. Paul Rusesabagina et son co-accusé Calixte Nsabimana ont eu leur peine de prison commuée par ordre présidentiel après examen de leur requête de clémence, a dit la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo. Les condamnations de 18 autres personnes pour terrorisme ont aussi vu leur peine commuée, a-t-elle ajouté. Monsieur Rusesabagina et les autres détenus devraient être remis en liberté samedi. La procédure pour son transfert au Qatar est en cours, a déclaré un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Il ira ensuite aux États-Unis, a-t-il ajouté. 34 migrants originaires des pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après le naufrage de leur bateau ce vendredi au large de la Tunisie, a indiqué un porte-parole judiciaire. Le bateau, parti jeudi du littoral de la région de Sfax en direction des côtes italiennes, transportait 38 passagers, dont 4 ont pu être secourus, a précisé le porte-parole du tribunal de première instance de Sfax en charge de l'enquête. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, entame à partir de ce dimanche une tournée dans 3 pays d'Afrique. Elle entend y promouvoir la vision positive portée par Washington qui voit dans ce continent l'avenir du monde. Jacques Aristide.
Kamala Harris va d'abord mettre le cap sur le Ghana pour la première étape de son voyage, qui doit ensuite la conduire en Tanzanie mercredi et enfin en Zambie vendredi. Le périple revêt une dimension particulière pour Madame Harris, première africaine-américaine et première femme devenue vice-présidente des États-Unis. Elle s'était rendue en Zambie alors qu'elle était enfant, quand sa grand-mère maternelle, originaire d'Inde, y travaillait. Son déplacement est la dernière initiative en date prise par l'administration du président démocrate Joe Biden pour solidifier les liens entre l'Amérique et l'Afrique, en grande partie ignorés durant le mandat du républicain Donald Trump et longtemps vu comme une région à problème que comme une terre d'opportunités. Autre objectif, tenter de freiner la présence grandissante de la Chine et de la Russie sur ce continent riche en ressources et mettre en avant un message plus positif de la part de Washington, d'après des responsables américains. La tournée intervient après d'autres voyages en Afrique de membres du gouvernement de Joe Biden, ainsi que de son épouse Jill Biden.
Au Burkina Faso, une dizaine de supplétifs civils et 4 soldats ont été tués mercredi lors d'une attaque près de Kaya dans le nord, ont indiqué jeudi des sources sécuritaires et locales. L'unité prise pour cible à Zorkoum était chargée de sécuriser les travaux de réparation des installations d'approvisionnement en eau de la ville de Kaya, régulièrement sabotée par des hommes armés, a expliqué un responsable local. Arrivé mercredi matin dans la ville de Kaya pour 48 heures, le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu sur les lieux de l'attaque quelques heures plus tard pour saluer, je cite, la bravoure des éléments qui ont réussi à repousser l'attaque, selon une source sécuritaire de haut rang. Le Tchad a annoncé jeudi la nationalisation de tous les actifs d'EssoTchad, une ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil, dont N'Djamena conteste la vente récente à une compagnie britannique. Cette dernière, Savannah Energy PLC, s'est insurgée vendredi dans un communiqué contre ce qu'elle considère comme une violation directe des conventions internationales et d'un arbitrage récent en sa faveur de la Chambre internationale de commerce de Paris. Elle a annoncé son intention de poursuivre l'État tchadien. Le 9 décembre 2022, Savannah, qui opère essentiellement en Afrique, avait annoncé par un communiqué qu'ExxonMobil lui avait cédé la totalité des actifs de sa filiale Esso Exploration and Production Tchad Incorporation. Le Tchad avait immédiatement contesté cette vente. En Tunisie, le ministre de l'Éducation a violemment critiqué aujourd'hui une série diffusée pendant le Ramadan, accusée de ternir l'image de l'école tunisienne. Deux avocats ont présenté un recours en justice pour arrêter sa diffusion. Cette série porte délibérément atteinte aux mœurs et au système éducatif par la diffusion d'obscénités, ont-ils déclaré. La polémique a éclaté dès la diffusion jeudi soir sur la chaîne privée El Hiwar Entoussi du premier épisode du feuilleton Fallujah du nom de la ville irakienne érigée en symbole de résistance dans le monde arabe pour avoir été un bastion des rebelles sunnites hostiles à la présence militaire américaine après l'invasion de 2003. La série retrace le quotidien d'un groupe de lycéens, leur comportement envers leurs enseignants et les relations difficiles de certains d'entre eux avec leurs parents.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de l'audition du patron de TikTok par des élus américains, la Chine a réagi, assurant ne jamais demander à ses entreprises de lui remettre des données collectées à l'étranger. La France a décidé à son tour d'interdire à ses fonctionnaires d'utiliser l'application Abdourahmane Dia.
Le gouvernement chinois n'a jamais demandé ni ne demandera à quelconque entreprise ou individu de collecter ou de lui remettre des données provenant de l'étranger d'une façon qui violerait les lois locales, a assuré une porte-parole de la diplomatie chinoise ce vendredi. Le gouvernement américain n'a jusqu'à présent apporté aucune preuve que TikTok représente une menace à la sécurité nationale des États-Unis, a souligné la porte-parole, fustigeant les attaques injustifiées à l'encontre de l'application, selon elle. Hier, le patron de TikTok a fait face à des élus américains sceptiques alors que les appels à bannir l'application se multiplient aux États-Unis. Après Washington, la Commission européenne, les gouvernements canadiens et britanniques et d'autres organisations, c'est au tour du gouvernement français d'interdire ce vendredi le téléchargement et l'utilisation du réseau social chinois sur les téléphones professionnels des 2,5 millions de fonctionnaires d'État. L'application de partage de vidéos courtes, très populaire parmi les jeunes, est accusée par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d'utilisateurs du monde entier. Ce que TikTok conteste.
Le président américain Joe Biden est arrivé jeudi au Canada pour une visite qui s'annonce fort cordiale, mais ne devrait pas évacuer pour autant quelques sujets délicats liés au commerce, à la coopération militaire et à Haïti. Rosine Monezero.
Au programme du président Biden ce vendredi, une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau avant un discours au Parlement canadien. Le président donnera ensuite une conférence de presse conjointe avec M. Trudeau. Le commerce, les dépenses anémiques du Canada en matière de défense et une éventuelle force internationale pour stabiliser Haïti en proie à des troubles et à un accord sur la gestion de l'immigration clandestine à travers la longue frontière entre les deux pays devrait figurer en tête de l'ordre du jour. Un autre sujet épineux pourrait être celui de la défense et plus particulièrement de la contribution canadienne à l'OTAN et au commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Il s'agit de la première visite du genre depuis celle de Barack Obama en 2009. L'usage veut que le président américain réserve au Canada son premier voyage à l'étranger après sa prise de fonction. Mais à cause de la pandémie, Joe Biden s'était contenté en février 2021 d'une visite virtuelle.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minitico, c'est avec Nathalie Barge.
Le Togo et le Niger ont décidé de créer une commission mixte de coopération sur la sécurité et le transport. Une décision prise à l'issue de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum à Lomé auprès de son homologue togolais Fornia Singbé en début de semaine. Les ministres des Transports, du Commerce et des Finances se rencontreront à Niamey le mois prochain pour échanger sur le transport des marchandises et le corridor Lomé-Niamey. Cette réunion sera suivie de celle des ministres de la Sécurité et de la Défense qui évoqueront la lutte contre le terrorisme. La première session de la commission se tiendra en fin d'année à Lomé. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'argent organisée par l'OCDE, Visa organise des programmes et des conférences sur l'éducation financière en Côte d'Ivoire et en RDC. Le thème de cette année, planifiez votre argent, plantez votre avenir, est centré sur l'impact du comportement financier individuel sur soi, mais également sur l'environnement et la société. Visa collabore avec Trace Academia pour sensibiliser les jeunes ivoiriens et congolais à l'épargne et aux investissements.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Les équipes africaines sont sur la brèche avec les éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, plein de matchs au programme ce vendredi pour le compte de la troisième journée. La République démocratique du Congo a enregistré ses premiers points dans ses éliminatoires grâce à sa victoire 3 buts à 1 face à la Mauritanie. Cette victoire ne change rien au classement des Léopards qui reste dernier du groupe I, juste derrière les Mourabitoun. Ce succès intervient sous une nouvelle ère avec la nomination du journaliste Kaboulo Moana Kaboulo comme ministre des Sports. Toujours ce soir, la Côte d'Ivoire fait face aux Comores au stade de la paix de Boaké. À suivre aussi Nigeria-Guinée-Bissau, Sénégal-Mozambique, le Cameroun reçoit la Namibie ou encore Guinée-Éthiopie. Le Burkina Faso reçoit le Togo à Marrakech, le Mali joue la Gambie.
Cette troisième journée s'est poursuivie hier jeudi.
La République centrafricaine a battu Madagascar 3 buts à 0 pour se relancer dans le groupe E. Le Ghana s'est imposé dans le choc de ce groupe face à l'Angola 1 à 0 et prend la tête de la poule. Le Soudan du Sud a battu le Congo 2 buts à 1 dans le groupe H. La Zambie a pris la première place grâce à sa victoire 3 buts à 1 devant le Lesotho. Dans le groupe I, le Gabon s'est imposé 1 à 0 face au Soudan, suffisant pour se classer premier. L'Algérie a battu le Niger 2 buts à 1 pour prendre le large dans le groupe F avec 9 points en 3 journées.
Ici aux États-Unis, Team USA confirme des discussions avec Folarin Balogun.
Le sélectionneur intérimaire de l'équipe américaine Anthony Hudson a réaffirmé que des discussions ont eu lieu avec l'attaquant du club français de Reims pour le convaincre de jouer pour les États-Unis. Folarin Balogun possède aussi la nationalité anglaise. Le joueur de 21 ans, né à New York, de parents d'origine nigériane et arrivé en Angleterre à l'âge de 2 ans, doit décider de son avenir international et donc porter le maillot d'un de ses trois pays. Prêté à Reims par Arsenal, Balogun fait forte impression cette saison en championnat de France, inscrivant 17 buts en 27 apparitions. S'il a joué le plus souvent pour l'Angleterre dans les sélections de jeunes, il a aussi évolué en moins de 18 ans pour les États-Unis.
Basketball à présent avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Cavs ont coiffé les Nets sur le poteau. Les détails avec Bagasikura.
Grâce à un tir primé d'Isaac Okoro à une seconde de la fin, Cleveland a arraché la victoire à Brooklyn 116 à 114. C'est la huitième victoire en 10 matchs de Cleveland qui conforte sa quatrième place à l'Est. Les Nets qui accusent désormais 5 revers de rang glissent au 7e rang. Synonyme de barragiste dépassé par Miami, New York concède une troisième défaite d'affilée 111 à 106 chez le mal classé Orlando. À l'ouest, les Clippers, qui sont cinquièmes, ont disposé d'Oklahoma City. Les Pelicans ont battu Charlotte 115 à 96. Oklahoma City et la Nouvelle-Orléans possèdent exactement le même bilan, 36 victoires, 37 défaites, de même que les Lakers, ce qui rend la lutte pour les playoffs indécise.
Merci, Bagassi.
Merci, Akuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Remaniement du gouvernement en RDC, de grosses pointures font leur entrée dans l'exécutif que le président Félix Tshisekedi a nommé la nuit dernière. Parmi eux, l'ex-chef rebelle et ex-vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, libéré de la CPI, l'ancien directeur de cabinet de M. Tshisekedi, Vital Kamerhe, lui aussi récemment sorti de prison, acquitté d'un procès pour détournement et bien d'autres. Pour une analyse, Eddie Sango a joint au Canada Yvonne Mouillard, professeur en conflit à l'Université d'Ottawa.
Ce gouvernement est marqué par l'entrée en scène de deux poids lourds, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, ancien vice-président de la République, ancien candidat, qui était à deux pas de devenir président lui-même, on se souvient, contre Joseph Kabila en 2007, et Vital Kamerhe, l'allié inconditionnel de Félix Tshisekedi, que l'on attendait pour 2028 et maintenant, tombé en disgrâce, il revient pour apporter son appui qui est non négligeable dans la région de l'Est du pays. Voilà donc deux figures de la politique congolaise qui viennent donc comme alliés incontournables du chef de l'État à quelques mois de la présidentielle, ce n'est pas rien.
Ils sont vice-premier ministre, l'un, Jean-Pierre Bemba, pour la défense et l'autre pour l'économie. Mais il y a aussi une autre figure qui était un chef rebelle, Mboussa Nyamwisi, qui est nommé dans ce gouvernement.
Oui, alors tout ça, c'est dans un contexte que tout le monde connaît du conflit dans l'Est. Félix Tshisekedi fait le pari donc de faire appel à ceux qui connaissent la guerre, qui connaissent le langage de la guerre, qui connaissent les négociations de guerre, donc en faisant appel à la fois à Jean-Pierre Bemba, à Mboussa Nyamwisi et à Vital Kamerhe, que l'on connaît pour son rôle dans les négociations politiques avec les rebelles. Je pense que ça, c'est un message clair qu'il veut dire aux Congolais que je vais m'occuper de la guerre avec ceux qui ont fait la guerre dans le passé et qu'on pourrait y parvenir ensemble. Donc voilà comment il faut comprendre l'arrivée dans ce gouvernement de Mboussa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba, mais aussi Vital Kamerhe.
Quel impact aura la nomination de ces gens du fait que tous ont été d'une façon ou d'une autre repris par la justice?
Oh, ben ici, on est dans la pure politique. Nous sommes à 9 mois de la présidentielle. Ce qui compte ici, c'est de s'assurer la cohérence de la parole gouvernementale, s'occuper de la guerre par ceux qui connaissent la guerre, ceux qui ont mené la guerre, et aussi mettre en place sa machine de guerre électorale pour évidemment l'emporter en décembre 2023. Ici, il ne s'agit pas de regarder si Bemba est passé par la case Cour pénale internationale ou si Mboussa Nyamwisi aurait commis des crimes pendant le temps de la guerre à son époque, mais de voir comment je peux l'emporter à la fin de l'année. C'est ça le message qui compte en puisant dans l'opposition, parce que toutes ces personnalités viennent quand même de l'opposition à son époque, bien sûr. Il veut diminuer sensiblement l'influence de l'opposition actuelle dans des bastions de l'Est du pays, notamment avec Mboussa Nyamwisi et Vital Kamerhe, et dans la partie nord, l'Équateur, qui est une région importante aujourd'hui en termes d'électorat. Et voilà.
C'était Yvon Mouillard, professeur en conflit à l'Université d'Ottawa. Il était joint par Eddie Isango.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
La vice-présidente américaine Kamala Harris s'envole ce dimanche pour le Ghana où elle va entamer une tournée africaine qui la conduira également en Tanzanie et en Zambie, ce qui fera d'elle la plus importante personnalité de l'actuelle administration américaine à se rendre en Afrique depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden. Anita Powell de la VOA fait partie des journalistes qui voyageront avec la vice-présidente. Elle nous propose ce sujet réalisé ici à Washington et relaté par Jacques Aristide.
La tournée de Kamala Harris intervient après d'autres voyages en Afrique de membres du gouvernement américain, de même que de la première dame Jill Biden. Pour la Maison Blanche, ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des progrès accomplis par Washington depuis le sommet États-Unis-Afrique tenu l'année dernière, au cours duquel le président Joe Biden s'est engagé à solidifier les liens américano-africains. Cameron Hudson du Center for Strategic and International Studies, un cercle de réflexion basé dans la capitale américaine.
She's the fifth senior level US official to go to Africa. She will have covered with her colleagues.
C'est la cinquième personnalité de l'administration américaine à se rendre en Afrique. Elle aura visité avec ses collègues près d'un quart de ce continent rien qu'au cours des trois derniers mois. C'est donc une attention et une diplomatie sans précédent accordée à l'Afrique, plus que nous n'en avons jamais vu de la part d'une précédente administration américaine. À mon avis, c'est cela le plus important.
Kamala Harris rencontrera la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, actuellement l'unique femme chef d'État en Afrique. Avec elle et avec les dirigeants des autres pays que Mme Harris visitera, il sera notamment question des engagements de ces États africains au chapitre de la démocratie.
Ce sont aussi tous des pays qui ont une relation très importante avec la Chine sur le front commercial, le front des investissements et maintenant de plus en plus sur le front de la dette. Donc, c'est une région où Washington peut venir défendre les valeurs démocratiques, essayer de les consolider et renforcer les partenariats avec ces pays qui, comme de nombreux autres pays africains, travaillent avec toutes sortes de puissances.
Autre sujet à l'agenda, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que beaucoup de pays africains n'ont pas encore condamné, de même que les problèmes liés aux droits de l'homme. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.
La vice-présidente soulèvera bien sûr les préoccupations relatives aux droits humains partout où elle ira. Cela fait partie intégrante du leadership américain dans le monde. Nous n'avons pas peur. Et en fait, c'est un signe de combien nous nous soucions des autres nations et des partenariats que nous sommes capables et désireux d'avoir avec elles.
Le périple revêt un cachet particulier pour Mme Harris, première africaine-américaine et première femme devenue vice-présidente des États-Unis. Son grand-père maternel, un diplomate indien, a travaillé avec le premier dirigeant de la Zambie après l'indépendance. Près de 60 ans plus tard, sa petite-fille, numéro 2 de l'administration américaine, va elle avoir un tête-à-tête avec l'actuel chef de l'État zambien.
Des parlementaires africains et russes sont réunis en sommet à la Douma d'État à Moscou du 19 au 20 mars. Russie-Afrique dans un monde multipolaire était le thème principal de cette conférence. Pour analyser l'intérêt de l'Afrique dans cette coopération avec la Russie, Eric Manirakiza a joint à Conakry le président du Conseil national de la transition, Dansar Kourouma, qui a pris part à ce sommet.
En deux jours, nous avons eu l'occasion de discuter à travers des tables rondes thématiques sur le constat, n'est-ce pas, de ces relations russo-africaines et sur les perspectives et dans le cadre, n'est-ce pas, du renforcement et de la dynamisation de ces relations qui sont pour la plupart des pays, notamment la Guinée, des relations qui datent de très longtemps et dont il est nécessaire d'évaluer et de réorienter autour des nouvelles opportunités qui se présentent aujourd'hui.
Et concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu de ces échanges?
Écoutez, ce n'était pas une rencontre d'opportunités ou d'affaires, c'était une rencontre préparatoire du sommet de Russie-Afrique qui doit se tenir le mois de juin, et d'ailleurs logiquement qui doit être précédé par une rencontre avec les parlements qui sont les représentations nationales des différentes composantes du peuple africain. Et c'était une rencontre préparatoire.
Est-ce pour dire qu'aujourd'hui vous êtes tourné vers la Russie que d'autres partenaires traditionnels?
La Russie a été toujours un partenaire de l'Afrique et de la Guinée. Et pour la petite histoire, la Russie a été l'un des premiers pays à secourir la Guinée quand elle a pris son indépendance en 1958. Les exemples ne finissent pas en Guinée. Et ce n'est pas aussi la première rencontre entre les parlements africains et russes. C'est la deuxième rencontre, l'autre date de 2019. Donc, il ne s'agit pas de se détourner quelque part, de se tourner quelque part. Il s'agit de relations diplomatiques, de relations de partenariat normal et qui doit s'inscrire dans une dynamique de globalisation où les pays sont à la recherche, n'est-ce pas, de meilleurs partenariats possibles pour booster leur processus de développement. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une mise en compétition, il s'agit d'une démarche normale de coopération entre les différents pays du monde. Nous avons été très clairs par rapport à notre demande vis-à-vis de la Russie. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation, mais aussi le transfert de technologies, surtout dans le domaine des mines et dans le domaine du développement des infrastructures pour la mise en valeur des potentialités que notre pays dispose. Donc, ce sont des partenariats qui ont existé depuis l'indépendance et dont nous avons l'obligation d'évaluer et de réorienter en fonction des nouvelles opportunités qui se présentent.
Dansah Kourouma, président du Conseil national de la transition à Conakry, était joint par Eric Manirakiza. La tuberculose, une infection bactérienne des poumons, reste l'une des maladies les plus mortelles au monde. Après des décennies de progrès, les cas de malades et de personnes infectées sont de nouveau en augmentation. À l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, célébrée le 24 mars, comme chaque année, des experts ont relevé la nécessité de concevoir de nouveaux vaccins plus efficaces pour contribuer à l'éradication de la maladie. C'est un sujet de Henry Ridgewell, relaté par Yacouba Ouédraogo.
La tuberculose a tué 1,6 million de personnes l'année dernière. Les progrès réalisés dans la lutte contre cette maladie ont été considérablement ralentis par la pandémie du coronavirus. Docteur Lucika Ditiou est du partenariat Stop à la tuberculose.
En raison du confinement, du fait que la réponse au Covid a été construite en grande partie sur le travail, l'équipement, les hôpitaux et les dispensaires, ou sur le personnel qui travaillait pour la tuberculose, beaucoup d'entre eux ont été complètement réaffectés à la lutte contre le Covid.
Les médecins affirment que cette situation a entraîné une augmentation du nombre de personnes atteintes de tuberculose non traitées ou non diagnostiquées. L'Inde est le pays où la charge de morbidité est la plus élevée au monde, avec plus d'un demi-million de décès dus à la tuberculose en 2021, soit environ un tiers du total mondial. Mais il existe un espoir de vaincre la maladie au cours de cette décennie. L'Inde a diagnostiqué et traité 2,4 millions de personnes atteintes de tuberculose en 2022. L'Indonésie, le Bangladesh, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Brésil ont aussi progressé. Célébrée le 24 mars, la Journée mondiale de la tuberculose marque l'anniversaire de la découverte par le médecin allemand Robert Koch en 1882 de la bactérie à l'origine de la maladie. Cette année, le thème est « Oui, nous pouvons vaincre la tuberculose ». L'Inde s'est fixée pour objectif d'éradiquer la tuberculose d'ici 2025. L'Organisation mondiale de la santé s'est fixé un objectif global pour 2030 grâce au diagnostic, au traitement et à la mise au point d'un vaccin plus efficace. Docteur Lucika Ditiou.
Lorsque vous mettez ensemble le fait que nous avons un peu plus d'engagement politique, que nous avons beaucoup de nouveaux outils que nous n'avions pas auparavant, que nous avons la perspective d'un vaccin à venir dans les 2-3 prochaines années, et nous disposons d'une société civile, d'une plateforme communautaire et de réseaux extraordinaires. Cela nous donne beaucoup d'espoir de pouvoir mettre fin à la tuberculose.
Mais cela nécessitera un financement plus important, estimé à 230 milliards de dollars sur les 8 prochaines années.
Nous sommes convaincus que le monde tentera d'éradiquer la tuberculose et d'être aussi audacieux qu'il l'a été pour le Covid. Car pour le Covid, pour le vaccin Covid, 100 milliards de dollars ont été instantanément trouvés.
La tuberculose est plus répandue et plus mortelle dans les pays pauvres. Les scientifiques estiment que le manque d'opportunités commerciales a entravé la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre la tuberculose. Mais le développement d'un nouveau vaccin permettrait de sauver des millions de vies.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h/24, un seul site internet, www.voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir. We'll be right back.